un nouvel album, le sien, et fait chanter trois jeunes femmes. Cela s'appelle Salade de filles, cela rend heureux, et cela nous permet de parler de l'industrie musicale avec l'une de ses légendes ce soir.
Ah, check this out.
Encore heureux, du lundi au jeudi sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter,
la voix est libre.
15h04, tout pile sur France Inter, tout de suite là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Voilà, c'est la maintenance qui fait son essai sur l'autre enregistreur. Il semblerait que tout fonctionne correctement maintenant. Eh ben, bon courage.
Bonjour Daniel, écoute, il n'y a que chez toi qu'on peut s'exprimer un petit peu, puisque c'est difficile. Moi, je voulais parler d'Alstom. Effectivement, le gouvernement, il a obtenu un report, là, hier. Mais ça aura duré combien, hein? Un éclair, un petit éclair, hein? Il y a un manque de courage de la part de M. Hollande et de M. Valls. Déjà ce matin, c'était mi-figue, mi-raisin, mais plutôt d'accord pour faire rentrer l'Américain, le General Electric. Et voilà, le fleuron français va être vendu à l'Américain. C'est à peu près sûr. Et pourquoi il manque de courage comme ça, M. Valls et M. Montebourg? Il suffirait seulement que vous optiez pour que l'État rentre dans le capital de l'entreprise. Ayez un peu de courage. Écoutez les travailleurs, moi je les ai entendus tout à l'heure, ils veulent garder ce fleuron. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce pognon que vous amassez là avec la finance? Mais ça suffit. Restons dans le fleuron français de cette grande entreprise. C'est pas possible. Ah non, profitez de ce report, enfin. Merci Daniel de me permettre de parler. Merci.
Alors c'est un banquier, un rom et un électeur du FN. Les trois sont autour d'une table et sur la table il y a 12 biscuits. Le banquier prend 11 de ces biscuits, il en reste un. Et en prenant les 11 biscuits, il regarde l'électeur du Front National et il lui dit « Prends ton biscuit, le rom va te le piquer ».
Salut Mermet, je suis super content d'avoir entendu en partie ton émission parce que je n'ai pas pu tout écouter sur le microcrédit parce que franchement c'est un véritable scandale. Je vais t'expliquer mon cas personnel. J'ai 56 ans, je me suis installé paysan à 53 ans suite à un accident du travail. J'ai été obligé par l'AGFIP de demander un prêt de 1500 euros, t'as bien entendu, pour avoir une aide de 3000. Le seul organisme auquel j'ai pu faire appel, parce que tu ne peux pas avoir d'autres solutions, c'est l'ADI, donc, dont tu parlais tout à l'heure. L'ADI qui a quand même le courage de me faire un dossier avec un taux d'intérêt de 9,71% au 11-4-2011, ce qui m'a fait un coût de 168,54 € en intérêt, plus 100 € de frais de dossier. Elle n'est pas belle la vie ? 1500 €. Et t'as pas le choix, mon lapin, tu peux pas aller ailleurs, sinon t'es lingué. Alors Mermet, bravo pour ton émission, et encore merci de dénoncer tout ça, et j'espère que tu passeras mon message. Allez, salut.
Marie-Claude, Paris 16e. Je vous appelle parce que je viens d'entendre que M. Pierre Gattaz estime que les travailleurs doivent être encore plus pénalisés qu'ils ne le sont. Parce qu'il faut que les entreprises puissent prospérer. Alors je me demande à quoi sert la prospérité d'un pays si elle ne bénéficie pas à ses habitants. Et est-ce qu'une nation ne doit exister que pour la prospérité de ses entreprises? Il y a là, au niveau de la considération de ce qu'est le travail de l'homme, quelque chose d'absolument catastrophique. Et il serait quand même préférable qu'il y ait une autre vue. Et surtout qu'on cesse de nous dire qu'on coûte trop cher. On parle toujours du coût du travail et jamais de ce qu'il rapporte. Or, sans les gens qui sont salariés, eh bien, il n'y aurait pas de prospérité des entreprises. C'est donc une question d'ouverture, de compréhension et de partage. Pas d'idéologie, pas de principe et encore moins de bêtises humaines à la façon Gattaz. Une nation n'est rien sans la prospérité de ses occupants. Voilà. Et il en est pour la France comme pour tous les autres pays du monde. Merci à vous. Excusez-moi pour ce coup de gueule. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Oui, non, mais le capitalisme solidaire, ça, je trouve, c'est joli comme formule, mais moi, je pense que je vais essayer de me faire des couilles en or. avec le proxénétisme équitable. Je pense que ça va être un très très bon truc dans pas longtemps.
Oui, proxénétisme équitable, on a, nous on a torture et dialogue. Si vous en trouvez d'autres, allez-y, dans le répondeur de la base judiciaire au 01 56 40 37 37. Allez-y, allez-y, merci pour tous ces messages, chers AMG. Écoutez ça. Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. Cette phrase, on peut la lire sur une tombe, un monument, au cimetière de Waldheim. Cimetière de Waldheim, à Chicago. Et c'est là que nous allons aujourd'hui. Aujourd'hui parce que le 4 mai 1886, à Chicago, fut inventé le 1er mai. Le 1er mai vient de là. Le 1er mai que nous allons célébrer demain. Mais pas n'importe quel 1er mai, parce qu'il y a plusieurs 1er mai. Il y a celui de Jeanne d'Arc, il y a celui de Pétain, il y a toutes sortes de 1er mai. Non, le nôtre, celui-là. Celui des martyrs de Chicago, de ces ouvriers, de ces militants ouvriers, révolutionnaires, syndicalistes qui furent pendus et qui sont les martyrs de cette longue lutte, de ces longues luttes sociales des États-Unis avec des répercussions en France, mais ces longues luttes pour la journée de 8 heures. La journée de 8 heures, la semaine de 40 heures ont été des conquêtes formidables dues à ces inlassables luttes, parfois très violentes, comme on va le voir ici aux États-Unis. Ça a été très violent aussi en France quelque temps plus tard à Fourmies, dans le Nord. On va célébrer, j'en suis sûr, évidemment, à Fourmies, c'est le massacre des jeunes mineurs de Fourmies. Mais là, c'est à Chicago, au Haymarket. Ça, c'est ces pendaisons, cette répression du mouvement ouvrier et syndical américain a eu des conséquences à travers le monde entier. Et j'ai sous les yeux les paroles d'une chanson de 1893, Chicago c'est 1886, qui dit « Prolétaires de tous les pays avec les 3-8 pour devise, sous le même programme unique, rien aujourd'hui qu'on divise, le français avec l'allemand, ceux d'Europe et ceux d'Amérique, ah frères, croyez-vous vraiment ?» La fraternité chimérique, magnifique, hein, même cœur abattu partout, même espérance triomphale, dans cette clameur qui s'exhale debout, 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 voici l'international. Superbe, superbe, ils y croyaient et ils ont gagné. Ils ont gagné parce que, ben, ils ont obtenu la journée de 8 heures et plus tard la semaine de 40 heures. Des conquêtes qui nous semblent maintenant des évidences, de choses qui vont, mais qui ont été obtenues. Conquises au prix du sang, au prix de luttes terribles qui sont passées par les États-Unis et qui sont parties de ce lieu où nous allons passer cette heure ensemble, Haymarket, à Chicago. Et puis on ira faire un tour en hommage à ces gens-là au cimetière de Chicago avec une évocation d'Emma Goldman qui avait voulu que sa tombe fût proche de celle de ses héros américains. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
AMG de Reims et ses alentours. Le premier café repère de Reims aura lieu le mardi 6 mai au Travel Bar à partir de 19h et aura pour thème l'Europe. Mardi prochain.
Et si on inventait les micro-révolutions partout, dans les banques qui nous arnaquent, dans les immeubles où le studio coûte 1000 euros par mois, dans les supermarchés qui nous vendent des légumes et des fruits pourris à 6 fois le prix qu'ils les ont payés, dans les perceptions qui poursuivent les malheureux qui n'ont pas les moyens de payer leurs impôts et qui laissent filer les gros fraudeurs. Si on inventait les micro-révolutions.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Quand rien ne vient de l'extérieur et tout doit venir de l'intérieur. Aujourd'hui à Cuba, 80% de l'agriculture est biologique. Comment adapter un modèle économique productiviste à une transition écologique? Eh bien, venez voir le film « Comment Cuba a survécu en 1990 sans pétrole ?» Alors, modèle de résistance ou résistance d'un modèle? Ce sera au Café Repère de la Bastille J'y suis de Montluçon, qui se tiendra désormais chez Faustino, 3 rue Comtesse, samedi 3 mai à 18h. À samedi!
Voilà le fameux monument aux martyrs de Haymarket. Ce drame a servi de prétexte à la répression du mouvement syndical aux États-Unis.
Yes, here in Chicago.
Et ils ont fait un texte en disant qu'à partir d'aujourd'hui, les travailleurs du monde entier se souviendraient de ceux qui sont morts à Chicago, à la manifestation de Haymarket.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Van Cotil. 4 mai 1886, massacre à Chicago.
Flight number 2, arriving from New York.
Ce mémorial marque l'endroit où se tenait la charrette qui a été utilisée comme une plateforme pour les orateurs dans la manifestation du 4 mai 1886. Un lieu qui, depuis 1992, est un lieu historique de la ville de Chicago. Commémoration du 125e anniversaire des événements de Haymarket, événements qui ont changé l'histoire pour toujours, dédié aux travailleurs du monde le 1er mai 2011.
Like every year they have unveil a new plaque.
D'accord, chaque année, il y a une nouvelle plaque qui est dévoilée par des syndicats du monde entier en solidarité avec le mouvement. Par exemple, là, c'est Unions, les syndicats Manawatu, c'est les syndicats néo-zélandais.
Mexico.
Mexicain.
Japan.
Japonais.
That's from the national AFL-CIO.
Ça, c'est AFL-CIO, le grand syndicat américain.
The Iraqi Federation of Oil Workers.
La fédération des travailleurs du pétrole irakien qui a posé sa plaque sur ce monument.
Over there is the Colombian one.
Et là-bas, c'est le syndicat colombien. La lucha sigue que vive la solidaridad internacional.
And every year they have a new one, so eventually they'll probably be every country in the world down here.
Donc chaque année une nouvelle plaque est dévoilée de syndicats étrangers. Donc un jour ou l'autre, peut-être que ça sera recouvert de plaques du monde entier.
Yeah. I think the dream is to turn this all into a park.
Et le rêve serait de tourner tout ce parking qu'il y a autour, parce que l'environnement est pas très très gai, c'est vrai, en un parc.
Alors on est à Chicago et on est devant le monument commémoratif du massacre de Haymarket. Alors, on est avec...
I'm Tim Yeager.
Tim Yeager.
I'm a union negotiator and organizer for the United Auto Workers Union.
Je suis un négociateur syndical et organisateur pour le syndicat national de l'automobile.
Et puis?
I'm Matt Muchowski, organizer, and I do administrative work for the Industrial Workers of the World.
Et je suis Matt Muchowski, et je suis un organisateur et un membre permanent du syndicat Industrial Workers of the World, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs industriels du monde.
Alors, racontez-nous ce qui s'est passé là, cette année-là.
Well, the run-up to what happened on this day occurred a year before when the American Federation of Labor called for a nationwide day of strikes to be held on May 1st, 1886.
Tout a commencé un an auparavant, quand la Fédération américaine des travailleurs a appelé à une grève le 1er mai 1886.
The purpose of the nationwide series of strikes was to show support for the 8-hour day.
Et la motivation principale de ces mobilisations, c'était pour revendiquer la journée de travail de 8 heures.
So on May 1st, 1886, one of the largest demonstrations was here in Chicago.
Et une des plus grandes manifestations qui a eu lieu ce 1er mai 1886, c'était ici, à Chicago.
Pendant ce temps-là, il y a... 1er mai 1886. Donc le 1er mai est né ici.
It was born here, yes it was.
Oui, c'est né ici.
Si on évoque le socialisme, si on évoque les grandes luttes social du 19e siècle. On pense à l'Angleterre, on pense à la France, on pense à l'Allemagne, mais on pense pas beaucoup aux États-Unis. Et les États-Unis ont construit une histoire, des images, une représentation qui fait qu'on oublie qu'il y a eu dans ce pays des luttes sociales extrêmement virulentes, extrêmement fortes, extrêmement violentes, très très souvent, dont celle-ci est un exemple, j'allais dire parmi d'autres, oui, sans doute paroxystique, puisqu'il y a eu des morts et des pendus, mais c'est une lutte parmi d'autres. Et quel était le but de cette lutte ? C'était la journée de 8 heures. Et ça, les grands patrons, les barons voleurs de l'époque, et là, en l'occurrence à Chicago, c'était l'usine McCormick, refusaient de concéder ces 8 heures, avec une semaine de 48 heures, évidemment. C'était ça l'objectif, c'était ça le but, c'était le rêve de tous ces lutteurs sociaux. Et c'était la même chose en France à la même époque, d'où une internationale et d'où des conséquences de le retentissement de cette histoire. Mais en 1860, en France, on travaillait encore 14 heures de travail par jour. Et les travailleurs, les travailleuses luttaient pour réduire la journée de travail. Et luttaient comme des fous pour obtenir la journée de 12 heures. Et voici la lettre qu'un patron de l'Isère adressait au préfet pour lui dire à quel point ce serait catastrophique une journée de 12 heures seulement. Le travail dans nos fabriques, disait ce patron, suivant les habitudes de nos belles contrées, a toujours commencé à 5 heures du matin, repos de midi à 15, fin à 19 heures, et ceci sans que la santé de nos ouvrières en ait jamais été altérée. Il y aurait de plus à craindre pour leur moralité si nous les affranchissions de 2 heures de liberté en soirée. Il y aurait d'autre part beaucoup à redouter pour l'avenir de nos entreprises. Vous le savez, elles vivent difficilement et si nous ramenons la journée de travail à 12 heures, la partie ne sera plus tenable. Nous serons obligés de transporter nos industries vers l'étranger où la main-d'œuvre est plus raisonnable. Voilà, c'était en 1872-13. On voit que les arguments n'ont pas changé ou peu changé. Depuis, c'est la même pression, c'est le même chantage. Néanmoins, la journée de 8 heures a été obtenue. En France, c'est en 1919. Elle n'a pas été appliquée tout de suite. Il a fallu d'abord une guerre mondiale pour obtenir ça. Et ensuite, elle a été appliquée, mais 2 ou 3 ans plus tard. En tous les cas, elle est là aujourd'hui, mais toujours menacée. On le voit avec les histoires sur l'ouverture des magasins le dimanche, le repos du dimanche, qui est toujours, on voit bien que c'est une lutte qui est toujours vivre. Là, on est donc à Chicago avec nos deux interlocuteurs, Tim et Matt, qui vont nous expliquer ce que fut cette journée particulière, ce 4 mai 1886, massacre à Chicago.
The largest demonstration was here in Chicago. About 80,000 people marched down Michigan Avenue, which is a major commercial strip.
Et donc ce jour-là, le 1er mai, il y a plus de 80 000 personnes qui ont marché dans l'artère principale de Chicago, qui est Michigan Avenue.
And some of the leaders of the strike here in Chicago, union organizers and leaders who were especially known for their radical rhetoric for working people.
Et il y avait les grands représentants, les grands leaders syndicaux de l'époque qui étaient reconnus pour leur radicalité et surtout pour leur combativité.
Well, there was it was a sunny day.
Et c'était un jour assez ensoleillé.
And, Lucy and Albert Parsons had their children with them, and people marched in their best clothing. The police, under orders of the captains of industry, looked for an opportunity to attack the parade.
Et c'était un jour assez ensoleillé, et tout le monde avait mis ses plus beaux habits, par la famille Parsons, cette leader syndicale et tous les autres. Et la police, qui était travaillée pour les grands patrons d'industrie, avait décidé de marquer l'événement.
The established press in Chicago saw the struggle for the 8-hour day movement to be nothing less than a communist revolution.
Et la presse établie de l'époque ne voyait dans la revendication de la journée de travail de 8 heures rien d'autre qu'une revendication purement communiste.
Évidemment.
What else would they say? Around the country, some of the demonstrations were attacked by police. Here in Chicago, they looked for an opportunity, but there was good discipline, good order. There was no opportunity given. And so it was a successful day.
Et ailleurs dans le pays, ces manifestations du 1er mai, certaines d'entre elles, il y a eu des débordements qui étaient réprimés par la police. Mais malheureusement, ici, tout était tellement bien encadré qu'il n'y a pas eu de débordement. Donc ça s'est très bien passé.
But on the following day, on the 2nd of May, at the McCormick Reaper plant, where the workers were on strike, demanding, among other things, the 8-hour day, the police attacked the picket line, and several workers were killed when they were bringing scabs.
Et le lendemain, le 2 mai, dans l'usine McCormick Reaper, des ouvriers qui faisaient un piquet de grève ont été attaqués par la police et certains d'eux sont morts sous les coups de la police.
The leaders of the 8-hour day movement pulled together a meeting and decided they should have a protest rally to protest the killing of the workers.
Et beaucoup des leaders syndicaux qui avaient été présents ces jours-ci se sont regroupés.
Parsons,
Albert Parsons,
August Spies,
Adolf Fischer,
Samuel Fielden,
tous leurs noms sont écrits ici sur le monument, ont décidé d'organiser une mobilisation en soutien et à la mémoire de ces ouvriers grévistes qui avaient été abattus par la police.
Many of the leaders of the early labor movement in Chicago were German immigrants.
Beaucoup des leaders syndicaux de ces débuts de Chicago au milieu et à la fin du 19e siècle étaient d'origine allemande.
They brought with them their class-conscious unionism from Germany.
Ils avaient amené avec eux d'Allemagne leur conscience de classe et leur syndicalisme.
Suppress us, we wouldn't have to speak up. If they didn't attack us, we wouldn't have to fight back. If our rights weren't violated, there'd be no reason to rebel. This land is not free, only for fools. This land is not free, only for fools. I don't recognize your law, I don't find you honorable. I despise you, hang me for it. The system is brutal and so are its thugs. They only know force, they only know violence. This land is not free, only for fools. This land is not free, only for fools. Free.
So they called for a rally to be held here, actually in the square where the intersection is, for May 4th.
C'est là où ils ont appelé à faire une manifestation qui, en fait, se réaliser à ce coin de rue-là, pour le 4 mai.
They hope for a big crowd.
Ils attendaient une grande foule.
And as sometimes happens in the labor movement, not everybody shows up.
Comme ça arrive parfois dans le mouvement syndical, tout le monde ne s'est pas présenté le jour de la manifestation.
Albert wasn't even scheduled to speak.
Et Albert, d'ailleurs, il n'était même pas prévu qu'il prenne la parole.
He was supposed to go to Ohio the next day for the 8-hour day movement.
Parce qu'il devait aller sur une autre mobilisation le lendemain qui devait avoir lieu dans l'Ohio, toujours pour la journée de 8 heures.
But since some of the other people didn't show up, he was called and he came running down with the kids and the wife.
Et comme un certain nombre des orateurs qui étaient prévus ne se sont pas présentés, on l'a appelé à la dernière minute pour qu'il vienne parler, donc il est venu avec sa femme et ses enfants.
They moved the crowd from there up to this area, just north of this alley here. And they hauled a hay wagon up, and the speaker stood on the hay wagon.
Et donc ils ont ramené la foule qui n'était pas aussi nombreuse que prévu ici, et ils ont amené une charrette, et les orateurs sont montés sur la charrette pour pouvoir haranguer la foule.
Voilà pourquoi le monument représente une charrette.
The mayor of Chicago was in attendance, actually. He came to the rally.
After a while, he concluded it was a peaceful rally. As he was leaving, he spoke to the policeman who was there, the police officer, and he said, well, I'm going home. This is a peaceful rally. You should do the same.
Et après avoir vu comment ça se passait, le maire de Chicago a vu que c'était une manifestation tout à fait pacifique. Il est allé voir les policiers, il a dit, écoutez, moi je vais rentrer chez moi, vous devrez en faire autant. Cette manifestation est on ne peut plus pacifique.
It started to rain a little bit.
Il a commencé à pleuvoir après un peu.
So the crowd started to dissipate.
Donc la foule a commencé à se disperser.
And up the street came a couple of hundred police officers.
Et de la rue à la gauche sont arrivés plusieurs centaines de policiers.
And they were carrying a new kind of rifle that enabled rapid fire. It was you could lock and load, and you just do it automatically. You didn't have to go in through the muzzle. They were designed for killing Native Americans.
Et ils avaient un nouveau type de fusil qui venait d'être livré, qui permettait des tirs assez soutenus. On n'était pas obligé de charger, de tasser la poudre. Et en fait, c'était un fusil qui avait été conçu pour pouvoir éliminer les Indiens d'Amérique, les Natives.
They came to this intersection where the alley is right here, right up to the edge of the wagon, and demanded that the assembly disperse.
Et donc, les policiers sont arrivés juste au niveau de ces quelques pavés, de cette petite allée, et sont adressés à la foule des manifestants en leur disant qu'il fallait se disperser.
Samuel Fielden objected, said this is a peaceful rally, and the next thing that happened is a dynamite bomb flew through the air from someplace over here along this alley and landed right in the front line of the police where the workers were, in between the police and the workers.
Et le leader syndical a dit que c'était une manifestation pacifique, qu'il n'était pas question de la disperser. Et la chose qui s'est passée après, c'est qu'un bâton de dynamite a été jeté quelque part ici à gauche et qui est arrivé dans les premiers rangs de la police et qui a explosé.
Dynamite had recently been invented.
La dynamite venait juste d'être inventée.
This was the first time a dynamite bomb was thrown in history.
C'était la première fois qu'une bombe à la dynamite était jetée dans l'histoire.
Nobody knows who threw it.
Et personne ne sait qui a jeté ce bâton de dynamite, qui a jeté cette bombe.
Many theories. One of course is it was a provocateur, which I think is most likely actually.
Il y a beaucoup de théories différentes. L'une, bien sûr, dit que c'était un provocateur, ce qui est a priori le plus probable.
It blew out the lights. It was gas lights.
Les lampadaires qui marchaient au gaz ont explosé.
Mortally wounded one policeman or two in the front line.
Elle a blessé mortellement un ou deux policiers qui étaient en première ligne.
And the police began firing.
Et à ce moment-là, la police a commencé à tirer.
In the melee that followed, I believe it was 7 police officers died.
Et dans la mêlée qui a suivi, je crois qu'il y a 7 officiers de police qui sont morts.
From bullets fired from that type of repeater rifle.
Tués par des balles qui provenaient de leurs propres armes.
So in the melee, the police killed their own.
Donc dans la mêlée, dans la confusion, c'est la police qui a tué ses propres membres.
The policemen were killed from bullets fired by these rifles.
Beaucoup des policiers ont été tués par des balles tirées par les armes des policiers.
We don't know how many workers were killed because the workers would not take their families to the hospitals in the wake of this.
Et on ne sait pas combien de syndicalistes et d'ouvriers sont morts parce que les choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils n'apportaient pas leurs proches à l'hôpital en cas de blessure.
It may have been as many as 20 or 30.
Mais les estimations vont entre 20 et 30 morts. Parmi les ouvriers.
But this became the excuse for a nationwide assault on the labor movement.
Et ça a été l'excuse qui a été mise en avant pour une attaque à niveau de tout le pays contre les mouvements syndicaux.
Ce drame a servi de prétexte à la répression du mouvement syndical aux États-Unis.
Yes, here in Chicago, the police raided labor union offices. They attacked and beat people who were still on strike for the 8-hour day.
Oui, par exemple ici à Chicago, les policiers ont fait des descentes dans les locaux syndicaux. Ils ont ici attaqué, battu tous ceux qui étaient dans des piquets de grève pour leur journée de 8 heures.
And they eventually arrested 8 men who they charged with inciting this riot, even though some of them were not even at the rally.
À la suite de quoi, les policiers ont arrêté et poursuivi 8 hommes pour avoir incité à la révolte, alors que la plupart de ces mêmes individus n'étaient même pas présents le jour de cette manifestation.
Les 8 qui ont été arrêtés, c'était des leaders.
Many of them were.
Beaucoup d'entre eux, oui, c'était des leaders syndicaux.
Albert Parsons, George Engel,
Adolf Fischer,
August Spies.
August Spies.
Oscar Niebe and Michael Schwab.
Oscar Niebe and Michael Schwab.
Louis Ling was not really a leader, but he was one of those people who was rounded up and, you know, put on trial.
Et Louis Ling n'était pas vraiment un leader syndical, mais il faisait partie de ceux qui justement ont été mis en prison et qui a été abattu en prison.
Louis Ling was only 19, and there was a show trial where their writings for the labor movement and about anarchy were used against them.
Oui, il n'avait que 19 ans à l'époque, et il y a eu une espèce de procès-spectacle organisé où on a ressorti tous les textes qu'ils avaient écrits pour la défense du mouvement anarcho-syndicaliste.
And they were all convicted, and five of them were sentenced to die immediately.
Et ils ont tous été reconnus coupables. Cinq d'entre eux ont été condamnés à mort par pendaison immédiatement.
Ils ont été pendus.
Louis Ling killed himself in jail before they could hang him.
Louis Ling, lui, s'est tué lui-même en fait en prison avant qu'on puisse le pendre.
Il s'est suicidé.
Yes.
Well, there's some dispute about that.
Oh.
Mais là aussi, il y a quelques débats à ce sujet.
Ah oui, il aurait peut-être été suicidé.
Well, his head was part of his head was blown off in prison by a dynamite cap.
Sa tête en fait a explosé en prison par un bâton de dynamite.
There are some that say he was assassinated by the police.
Et certains donc du coup ont tiré la conclusion qu'il avait été assassiné par la police.
They after all had control of the jail.
Et bien sûr, avait elle le contrôle des prisons, des entrées et des sorties en prison.
There's one little wrinkle about the trial that probably should be mentioned.
Il y a un petit détail au sujet qu'il faudrait rajouter au sujet du procès.
Arrest warrants did go out for all eight, but they only arrested seven because Albert Parsons was out of town.
Et en fait, au début du procès, il n'y avait que 7 personnes qui avaient été arrêtées parce qu'Albert Parsons n'était pas là. Le leader syndical n'était pas là au moment des arrestations, des perquisitions.
On the first day of the trial, he walked into the courtroom. To everyone's astonishment, walked right up to the judge and said, "My name is Albert Parsons. I can't stand by while you put my friends on trial for their lives. I'm here to stand with them."
Et donc le procès a commencé pour les 7 syndicalistes. Simplement, le premier jour du procès, Albert Parsons est arrivé à la surprise de tous. Il a traversé la salle d'audience, il s'est présenté devant le juge et il a dit « Ce procès inique contre mes frères de lutte ne peut pas se passer sans moi et c'est pour ça que je vais venir à leur côté. »
When the four were hung, Albert Parsons, Spies, Engel and Fisher, you know, the crowd that was assembled, because they did it outside, behind the courthouse.
Les 4 d'entre eux ont donc été pendus. Pendaison publique.
They sang the Marseillaise on the way to the gallows.
Et ils ont chanté la Marseillaise en marchant vers l'échafaud. C'était l'exécution publique.
It was by invitation.
C'était sur invitation.
And the people who were invited were the captains of industry, the well-to-do.
Et ceux qui ont été invités, c'était les capitaines d'industrie, les riches et les puissants.
The McCormick family was invited, which owned the newspaper, which is now the Chicago Tribune, and they also owned the factory where the workers were attacked.
La famille McCormick avait été invitée, qui était les propriétaires des usines et qui propriétaires du Chicago Tribune, et d'autres membres de la famille de la classe aisée.
They received incidentally gold engraved invitations.
D'ailleurs, les invitations pour la pendaison étaient en lettres d'or.
A sympathetic reporter asked one of the attendees why he had come to the execution. And he said, "I've come to watch the death of the labor movement."
Et il y a un journaliste acheté à la solde du pouvoir qui a demandé justement à un des spectateurs « Pourquoi vous êtes venu assister à cette pendaison ?» Ce à quoi l'industriel a répondu « Je suis venu assister à la mort du mouvement syndical. »
I dreamed of fall Joe Hill last night, live with you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead, I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake Joe, great God, says I am standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses, they framed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I did not die. Says Joe, I did not die. And standing there just as big as life, smiling with his eyes, says he what they forgot to kill went on to organize, went on to organize.
From San Diego on up to Maine and every mine and mill, where workers strike and organize, says he'll find Joe Hill, says he'll find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, live as you and me, says I, but Joe, you're 10 years dead, I never died, says he, I never died, says he.
Un haut lieu de la culture populaire américaine, c'est le cimetière de Waldheim à Chicago, où on trouve le monument aux martyrs de Haymarket. Et autour de ce monument, un certain nombre de lutteurs sociaux, de syndicalistes, d'hommes ou de femmes engagés à cette époque ont tenu à ce que leur tombe entoure ce monument, dont la grande Emma Goldman, la génialissime Emma Goldman, dont la tombe se trouve juste à côté. Donc, un hommage, nous rendons un hommage aujourd'hui à ces hommes et à ces femmes qui se sont battus pour des choses qui aujourd'hui nous semblent tout à fait évidentes, comme là, la journée de 8 heures. C'est une des luttes. Souvent d'ailleurs, c'est la lutte de classe tournée à la guerre civile, une des luttes qui a permis un certain nombre d'émancipations dont nous jouissons, dont nous profitons aujourd'hui. Très souvent, beaucoup d'entre nous l'ignorent.
What good is it to do these, to blow the leaves today?
C'est absurde de voir ce monsieur qui, par un jour de vent, est en train de souffler les feuilles mortes de ce cimetière alors que l'arbre est encore plein de feuilles.
Voilà le fameux monument aux martyrs de Haymarket. Et alors, c'est un bronze magnifique, héroïque. C'est, nous dit-on, la Marseillaise qui regarde au loin et qui protège un homme qui a été visiblement très christique, hein, avec une barbe vraiment de Christ, et qui est mort et en train de mourir derrière elle. Elle va lui poser les lauriers de la gloire sur le front. Et the day will come when our silence will be more powerful than the voices you are slaughtering today. Il y a des badges là qui sont posés là. Ils proviennent de, sans doute, des mouvements anarchistes, radicaux, divers et variés.
Les socialistes démocrates d'Amérique, le comité d'organisation des travailleurs de Chicago, les vétérans du Vietnam contre la guerre, l'organisation Taxer les riches, le parti vert de l'Illinois, un badge qui met capitalisme entre parenthèses.
Et voilà, tout ce qui bouge, qui est radical, anarchiste, de la gauche radicale, vient ici en pèlerinage à la mémoire des morts assassinés en 1886 à Haymarket. Ça illustre des luttes évidemment particulièrement violentes et âpres, sans qu'on sache jamais depuis qui a jeté la bombe. Est-ce que c'est une provocation policière ou bien un geste anarchiste? Évidemment que la version officielle, c'est les anarchistes.
If we could move to the other side of this monument for a minute.
Venez, je vais vous montrer l'arrière du monument.
This is an extremely important statement by the next governor of the state of Illinois.
Et reproduite à l'arrière du monument, on voit une phrase qui a été prononcée par le gouverneur de l'Illinois, c'est-à-dire l'état où on se trouve, qui a suivi celui qui était là en poste au moment du massacre.
He said that the hanging of the martyrs was a travesty, and he granted a pardon to 3 of the martyrs who were not hanged: Samuel Fielden, Oscar Niebe, and Michael Schwab. And they were allowed to live out their life.
Dans ce texte, le gouverneur de l'Illinois reconnaît que ce procès était complètement faussé et truqué, et il donne une amnistie complète aux 3 martyrs qui ont été arrêtés mais qui n'avaient pas encore été condamnés à mort et qui, après ça, ont pu reprendre une vie normale, c'est-à-dire Michael Schwab, Oscar Niebi et Samuel Fielden.
La tombe d'Emma Goldman, avec des fleurs, avec des pierres posées au pied de sa tombe, c'est la tradition juive. Et puis de ce garçon du syndicat IWW qui vient de Saint-Louis en pèlerinage ici. Il est allé près du monument aux martyrs de Haymarket et il a laissé un petit badge de son syndicat. Et là, il est venu, il a laissé une pomme. Tu vois, la pomme rouge, il avait ça dans son sac. Elle vient de Saint-Louis, la pomme, en hommage à Emma Goldman, 1869-1939. La liberté ne descend pas vers le peuple doit s'élever lui-même vers la liberté.
One of the pamphlets that the Labor History Society has details all the people who are buried out in the cemetery. Yeah. And so once the Haymarket anarchists were buried there, all these other radicals wanted to be buried there as well. Yeah, and you know, anarchists in like, you know, the 19-teens and 1920s, and then after like the 1930s, all the communist leaders were buried there.
Ce qui est intéressant avec le cimetière où étaient enterrés les martyrs, c'est que beaucoup après des mouvements sociaux, des syndicalistes, des anarchistes et même des socialistes américains ont voulu être enterrés dans ce carré-là pour être près des martyrs de Haymarket.
Their story resonated with an entire generation of people who had become labor leaders. You know, I just always think of in Emma Goldman's autobiography, you know, her first like real like political kind of awakening happens when she heard about their trial.
C'est-à-dire que dans les années qui ont suivi leur assassinat, cette histoire-là a été vraiment un déclencheur dans l'engagement de beaucoup de jeunes américains pour se mobiliser. C'est ce qu'a fait par exemple Emma Goldman, qui sa prise de conscience politique, c'était en entendant parler de l'histoire de ceux de Haymarket.
Et il a fallu l'entrée en guerre en 1917 pour mettre un terme à cette effervescence sociale, ces revendications syndicales, ouvrières aux États-Unis.
Yeah, I mean, the World War definitely repressed a lot of labor organizing. A lot of more conservative unions said, okay, we're not striking. You know, we're going to support the war effort.
Et c'est vrai que la Première Guerre mondiale a déjà permis la répression de beaucoup de mouvements progressistes et aussi a fait que les mouvements syndicaux sont devenus beaucoup plus réaliste et beaucoup plus mainstream en disant on ne va pas faire la grève puisqu'il faut soutenir l'effort de guerre.
C'est-à-dire que le nationalisme a étouffé le syndicalisme en 1917.
A lot of the more conservative unions got, you know, they supported the war, but there were unions like the IWW who opposed the war and who demonstrated against the war. Eugene Debs went to jail for speaking out against the war.
Il y a eu beaucoup de syndicats conservateurs qui ont pris le devant de la scène après 1917, mais il y avait aussi des syndicats comme le mien, IWW, qui se sont opposés à la guerre, qui ont fait des manifestations contre la guerre. Eugene Debs a fait de la prison contre la guerre.
And there was a lot of repression against the groups that did not support the war. There was raids on their offices, and one of the important things is that it wasn't all from the police. A lot of it was extrajudicial. It was lynch mobs. It was, you know, vigilante groups.
Et après ça, il y avait régulièrement des attaques, des descentes, pas simplement des descentes de flics, c'était aussi des milices, des lynchages contre les mouvements syndicaux qui s'opposaient à la guerre.
Et la sorcière se lève plus haut que nos petits mots.
Talk about this story, not just here, but around the world, occurs 2 years after the execution in Paris in 1889.
La raison pour laquelle on parle encore de cette histoire et de ces événements encore aujourd'hui, c'est arrivé 2 ans après cette manifestation, à Paris, en 1889.
At a meeting of the International Working Men's Association, First International, on the occasion of the centennial of the French Revolution.
Le rassemblement de la Première Internationale à l'occasion du centenaire de la Révolution française, donc en 1889.
There was a gathering of trade unionists from around the world, socialist, anarchist, trade unionists.
Et donc il y avait un rassemblement de socialistes, d'anarchistes et de syndicats du monde entier à Paris.
And a resolution was adopted that said from now on, May 1st will be a day on which they remember the martyrs of Chicago.
Et ils ont fait un texte en disant qu'à partir d'aujourd'hui, les travailleurs du monde entier se souviendraient de ceux qui sont morts à Chicago, à la manifestation des Haymarket.
Voilà un pont entre les travailleurs américains, ici, de Chicago, et les travailleurs français.
Absolutely.
Tout à fait.
Et ça nous ramène à la Marseillaise.
Yes.
I think, you know, their story is, you know, one of the things that's driven both the international labor movement and the labor movement in Chicago. And I know, you know, with my union, the IWW, we were founded almost 20 years after the Haymarket affair. And, you know, a lot of the ideas and the ideals of the Haymarket martyrs really played into what our union stood for.
Mais moi, je pense à l'importance de ce mouvement, c'était par exemple la place que ça a pris dans l'histoire des mouvements syndicaux à travers le monde. Et par exemple, le syndicat dont je fais partie, moi, qui est IWW, qui a été fondé une vingtaine d'années après, bah, c'est basé vraiment sur les idées et les idéaux de ceux qui sont tombés ici à Haymarket.
I regret to report that I also have, like Albert Parsons, I have to go to Ohio tonight. I'm bargaining a contract tomorrow, so I have to leave the site of the rally to go to Ohio.
Bon, désolé, par contre, moi, je dois faire comme Albert Parsons et je dois ce soir partir dans l'Ohio pour aller négocier un contrat demain. Donc, je dois vous laisser et laisser le site de cette grande manifestation pour aller faire une lutte syndicale dans l'Ohio.
Donc, le combat continue.
The fight goes on, absolutely.
Oui, tout à fait. Le combat continue.
OK.
Thank you very much.
Thank you, brothers.
Fight goes on. Merci à tous. Merci à Tim Yeager du syndicat United Auto Workers, à Matt Muchowski du syndicat IWW Industrial Workers of the World. Merci aussi à Marc Rogovin qui était avec nous au cimetière Waldheim à Chicago. C'était 4 mai 1886, massacre à Chicago. Un reportage de Guy Vanctil et de votre serviteur. À lire Haymarket. Pour l'exemple, écrit en prison par Albert Parsons et Auguste Spies, publié en 2006 chez Spartacus, et puis évidemment, une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, de Howard Zinn, publié en 2002 chez Agon, et vous savez que nous travaillons actuellement sur la version film de du bouquin de Howard Zinn, un long travail. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, et puis aller voir la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Kevin Pelot. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélieu et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve pas demain. Si, on se retrouve demain 1er mai. On se retrouve demain 1er mai à 15h pour la passe J'y suis. Pour l'heure, vous retrouvez Hervé Pochon avec son temps de Pochon. À demain 15h pour la passe.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Nous, notre fonction, c'est, une fois qu'on a mis le bonheur citoyen en débat, c'est de créer des groupes structurés de réflexion avec des citoyens qui s'appuient sur la science pour produire des idées neuves. Et ces idées, ces propositions-là, on les amène aux ministres, aux dirigeants économiques. Et là, on change les manières de faire.
Merci Alexandre, bonjour à tous et bienvenue à la mairie du 4e à Paris pour cette soirée qui a pour thème le bonheur citoyen. Tout un programme.
Bonjour.
Bonjour madame, je cherche le bonheur.
Il est devant vous.
C'est vous?
Oui, c'est moi.
Ah, c'est vrai que vous avez les cheveux orange, vous êtes très coloré.
Tout autour.
Vous rayonnez de bonheur?
Exactement.
Mais alors, pourquoi vous êtes venu là alors?
Ben, pour passer le temps.
Ah. Non, je pensais que vous alliez me dire pour partager le bonheur.
Non, non, moi je le garde pour moi. J'ai eu assez de mal à le trouver, je le garde.
Mais vous l'avez trouvé où?
J'ai trouvé au fond de moi.
Et comment?
Ben, je ne sais pas. Un miracle. La propension au bonheur.
Mais il y a un moment
vous
êtes...
Tout à l'heure, ce qu'il a dit, je ne sais plus laquelle personne a dit ça, c'était très intéressant. A dit que quand on était heureux, on rendrait les autres heureux. Mais je pense que quand on est malheureux, on rend les autres malheureux. Mais qu'on ne peut rendre les gens heureux que si soi-même on dégage du bonheur.
Mais vous, à quel moment vous avez trouvé le bonheur?
Il n'y a sûrement pas très longtemps, mais les années ont fait que c'est venu. C'est la sagesse.
Il n'y a pas très longtemps, vous dites?
Non, non, il n'y a pas très longtemps. Je pense que le bonheur, ça se cultive.
Et qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Je ne sais pas. Si je l'avais su, je le dirais à tout le monde.
C'est vrai. Hein, ben, alors,
c'est, donc c'est raté. Hein.
Non, mais je vous remercie quand même. Ça prouve que vous pouvez être généreuse. Quoi. Vous dites, si je le savais...
Voilà, exactement.
Et votre prénom?
Catherine.
Bon, ben, merci Catherine. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes sociologue du bonheur?
Je suis historien du bonheur.
Historien du bonheur, vous avez fait l'histoire du bonheur?
Tout à fait, l'histoire du bonheur en France depuis 1945.
Pourquoi avant il n'y avait pas le bonheur, avant 1945?
Si, certainement que des gens ont pu être heureux, mais depuis 1945, le bonheur est devenu une valeur essentielle de nos sociétés, et il y a eu ce que j'appelle la conversion au bonheur, ou le sacre du bonheur, c'est-à-dire qu'en 1945, le bonheur est finalement une valeur assez secondaire, délégitimée, et le bonheur prend son ascension dans le ciel des valeurs depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, devenir la norme des normes, le principe suprême de justification. On en arrive au devoir de bonheur. Et ça, ça n'existait pas en 1945.
Mais par exemple, le siècle des Lumières, tout ça, pour moi, il n'y avait pas le bonheur à ce moment-là?
Alors, est-ce qu'il y avait le bonheur? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, au XVIIIe siècle, l'idée du bonheur connaît un certain nombre de discours nouveaux. Mais ensuite, le XIXe siècle est... Et la première moitié du XXe siècle, finalement, relègue le bonheur comme quelque chose d'assez secondaire et reviennent sur des idéaux des Lumières. Donc peut-être j'aurais pu aller dans le temps plus long, mais au XXe siècle, il y a ce mouvement d'ascension du bonheur, il débute après la Deuxième Guerre mondiale.
Je peux avoir votre nom?
Rémi Pavin.
Quel a été l'élément qui vous a fait vous intéresser au bonheur?
Bien, j'ai été frappé par l'omniprésence du bonheur dans la société contemporaine et j'ai voulu essayer de comprendre comment est-ce qu'on en était arrivé là et quelle était l'origine de cette hiérarchie des valeurs dominée par le bonheur.
Comment vous définissez votre bonheur?
Moi, personnellement, c'est une question très intime. Je ne veux pas en parler à la radio.
C'est vrai, vous voulez pas?
Pourtant,
Si on veut bien partager le bonheur, il faut bien un peu dire ce qui nous rend heureux. Non
ah, ce qui, moi, me rend heureux...
C'est un peu ça, le bonheur. C'est quand on a trouvé le bonheur, on est heureux. Ou c'est encore autre chose?
Alors moi, je ne suis pas philosophe, je ne vais pas le définir. Je me suis plutôt intéressé à la manière dont les contemporains que j'étudie, ceux depuis 45, vont le définir. Alors moi, bien sûr, j'ai ma propre définition, elle a été influencée par mes recherches.
C'est pour ça qu'elle m'intéresse un petit peu, parce que vous avez creusé un peu le sujet. Hier, tout le monde me disait « le bonheur est à l'intérieur ». Donc voilà, vous avez creusé...
Oui, le bonheur est en soi. Pour certains, ça va être l'amour, un bon travail, intéressant et stimulant qui va rapporter de l'argent. Pour d'autres, ça va être plutôt sexe, alcool et rock'n'roll. Voilà, il y a différentes idéologies, différents modèles, différents chemins. Et finalement, chacun va construire son bonheur, influencé par les normes sociales et puis par les expériences qu'il va faire dans sa vie quotidienne.
Oui, alors une petite réponse un peu plus personnelle.
Ma femme.
Ah, donc vous êtes dans la première catégorie, c'est pas sexe, drogue and rock'n'roll.
Je vais éviter de répondre.
Bon, et si on veut en savoir plus, il y a votre livre, Histoire du bonheur en France depuis 1945, chez Robert Laffont. L'auteur, c'est Rémi Pavin.
Merci monsieur.
Ça marche?
Oui, ça marche.
Vous pouvez conduire une petite réflexion sur le bonheur?
Avec plaisir, oui. Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que vous avez comme titre pour pouvoir conduire une réflexion sur le bonheur?
Moi, je dirais que le bonheur est le temps qui s'écoule.
Ah oui, donc.
Donc c'est vraiment le bonheur, c'est. Quand je dis bonheur, ça veut dire que d'un seul coup, ce temps qui s'écoule, cette histoire qui est la mienne, je m'en empare et je l'interroge à la lumière du bonheur. Voilà.
Votre prénom ?
Jacques-Pierre.
Je vous propose de chaque table tirer une carte.
Alors bonheur et travail. Bonheur au travail. Alors allez-y, ça vous inspire quoi ?
Hein ? C'est quoi votre travail ?
J'en ai pas en ce moment.
Ah.
Être sans emploi, ça permet de réfléchir avec, effectivement à où est le bonheur. Ça donne un peu de temps pour réfléchir.
Parfois, est-ce que ça plombe ?
Oui. Ça peut. C'est pas mon cas.
Et vous cherchez dans quelle branche ?
Le BTP.
Papa Charlie, pouvoir Alpha 5. Un plan pochon, c'est terminé pour aujourd'hui. Terminé, à demain.
Professionnel, besoin d'une idée lumineuse pour bloquer le prix de votre électricité ? GDS Suez Énergie France vous garantit un prix de l'électricité sans augmentation pendant 2 ans. En plus, une remise de 5% sur le prix du kilowattheure. Appelez le 3050. Appel gratuit depuis un fixe, voire conditions sur notre site. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire du Festival Rock en Seine. 3 jours de rock dans le domaine national de Saint-Cloud. Avec Lana Del Rey, Arctic Monkeys, The Prodigy, Queens of the Stone Age, Jack Bug, Portishead. Tout le rock s'arrête en Ile-de-France les 22, 23 et 24 août. Renseignements sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h passé de quelques secondes. Les informations, Maxime Deps.
L'horreur poursuit son chemin en Syrie. Au moins 18 personnes, dont 10 enfants, ont été tuées aujourd'hui au cours d'un raid mené par l'armée dans un quartier rebelle d'Alep, au nord du pays. La Syrie, où l'utilisation d'armes chimiques par le régime récemment n'a pas encore été prouvée après les nouvelles allégations de Paris et Washington. Aujourd'hui, Londres appelle les enquêteurs à agir au plus vite. Au Mali, pendant ce temps, la France poursuit son action contre les terroristes. Les forces spéciales annoncent aujourd'hui avoir tué un combattant islamiste au nord de Kidal, opération qui a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 avril dernier, opération au cours de laquelle d'autres djihadistes, des enfants soldats notamment, ont accepté de se rendre. Dans le dossier Alstom, l'affaire est encore loin d'être bouclée, même si le groupe français semble désormais pencher du côté américain. Hier soir, le conseil d'administration a donné sa préférence à General Electric, mais Siemens ne lâche pas le morceau pour autant. L'Allemand a décidé d'améliorer son offre ce matin. Rien n'est plié, assure le ministre de l'économie, Arnaud Montebourg. Les nocturnes au printemps Haussmann à Paris sont-elles réellement légales ? Le tribunal de grande instance rendra finalement sa décision le 14 mai prochain dans cette affaire. Syndicats et directions sont en conflit depuis plusieurs mois. La CFDT et la CGT reprochent notamment aux dirigeants de la prestigieuse enseigne de faire travailler les salariés au-delà de 21h tous les jeudis soirs. Or, la loi stipule que le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Depuis peu, le magasin situé sur les grands boulevards à Paris ferme ses portes à 20h45 et ce, dans l'attente de la décision de justice. La France serait-elle plus vulnérable que les autres États européens face aux cyberattaques ? Un rapport publié aujourd'hui montre que notre pays est l'un des pays les plus touchés avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore la Suisse, principaux ciblés, les sites officiels. À eux seuls, ces 4 pays concentreraient plus de 70% des infections détectées en Europe. France Inter, vous le révélez dès 13h cet après-midi dans l'affaire dite de Tarnac. Les investigations sont désormais terminées. La juge parisienne instruisant le dossier a notifié récemment la fin de l'enquête. Enquête portant sur le sabotage de lignes SNCF, c'était en 2008. Reste à savoir si les personnes mises en examen dans ce dossier seront effectivement renvoyées devant la justice. Peut-être y aura-t-il 2 clubs espagnols, 2 clubs madrilènes, même en finale de la Ligue des Champions le mois prochain. En football, hier, le Real Madrid de Karim Benzema a composté le premier billet face au Bayern. L'Atlético Madrid a l'occasion de faire de même ce soir contre Chelsea. Coup d'envoi à 20h45.
Mmh.
tous les dimanches.
Mais alors,
à 20h10,
c'est presque un genre en soi.
Le masque et la plume.
J'aime bien ça.
Non.
Mais ouais.
Jérôme Garcin.
Merci pour cette intervention. D'autres interventions, non ?
Littérature.
Donc jusqu'à la page 17, moi j'ai trouvé ça hilarant.
Cinéma.
Magnifique.
Théâtre.
Ah oui.
Théâtre. Laissez-moi terminer, Jacques, et vous me perturbez.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la plume,
on a envie de tout sauf de pleurer.
Rendez-vous ce soir dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Et à 16h03 sur France Inter tout de suite, c'est bien sûr Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour Frédéric.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. D'où vient l'inspiration? Ben évidemment, c'est très difficile à définir et puis c'est très divers. Par exemple, quand Maurice Ravel a écrit son tombeau de Couperin, il dit lui-même que c'était un hommage, évidemment à Couperin lui-même, mais aussi à la musique française du XVIIIe siècle en général. Et en plus, on sait qu'il a dédié chacune des pièces à un ami ou un proche mort à la guerre. Donc ce sont des circonstances tout à fait précises. L'œuvre pour le piano, au départ, a été ensuite orchestrée et Maurice Ravel nous a donné là toute l'étendue de son talent pour faire sonner les instruments et pour les apparier. Voici le rigaudon du tombeau de Couperin. Thank you. Rigaudon tiré du tombeau de Couperin de Maurice Ravel par l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Thomas Zietmeier. Alors ce côté très clair, très net, tranchant, presque un peu vraiment impertinent, on peut dire. Je cherche un mot qui aille bien avec cette musique typiquement française, c'est-à-dire qu'elle est claire, qu'elle étincelle, évidemment. C'est quelque chose qui est très particulier à la musique française en général. Mais si vous prenez Claude Debussy, il était plus en rondeur, plus en impression soutenue, alors que Ravel avait cette netteté dans le trait qui, de toute façon, différencie véritablement son écriture de beaucoup d'autres. Quant à Johannes Brahms, lui, il disait de toute façon qu'il n'y avait pas de compositeur français. Donc, malgré tout, on va l'accepter dans cette émission, comme très souvent, parce que ces sensibilités très éloignées nous sont absolument nécessaires, elles sont complémentaires. Alors, qu'est-ce qui a poussé Johannes Brahms à écrire, par exemple, le deuxième Capriccio tiré de ses pièces pour le piano, puis 76 ? Un caprice, c'est un caprice, c'est-à-dire une impression, un impromptu, quelque chose qui vous vient comme cela. Alors, Brahms, évidemment, dans ses fonds, à lui, il y a toute cette nostalgie de l'Allemagne du Nord, il y a ses vieilles ballades, ses légendes, et c'est évidemment un autre caractère, mais s'il manque et Ravel aussi, il manquait Brahms, nous serions bien démunis. Voici donc le deuxième Capriccio, opus 76 de Johannes Brahms.